Are you willing to come up and give him some of this money for the wall? Because apparently that's the sticking point.
No, nothing for the wall. We're talking about border security.
Nothing for the wall, but that means it's
a non-starter. Well, we can go through this all back and forth. Mm-hmm. No. How many more times can we say no? Nothing for the wall.
J'aime la voix de cette femme. J'aime cette femme beaucoup, Madame Pelosi.
La nouvelle en date d'aujourd'hui, nouvelle présidente de la Chambre des représentants qui est interviewée il y a quelques heures par rapport à l'impasse budgétaire, se faisait demander « Est-ce que vous êtes prête et prêt comme nouvelle majorité démocrate à financer le mur à la frontière mexicaine, même si c'est avec un montant réduit? » Et la réponse catégorique de la présidente de la Chambre, Mme Pelosi, c'est de dire « Non, combien de fois il faut qu'on le dise? »
Ben, j'allais dire, on peut même se demander pourquoi poser la question à ce stade-ci. On le sait que les démocrates ne veulent pas, veulent d'autres solutions pour protéger les frontières, mais pas de mur.
Pas de mur. Et donc, on est encore dans la même situation dans laquelle on est depuis deux semaines. Les démocrates qui maintenant sont majoritaires, donc contrôlent le programme législatif de la Chambre, donc contrôlent essentiellement ce qui va émerger ou n'émergera pas de la Chambre des représentants. Et tant que ça va être leur position et que de son côté, le président va maintenir la sienne, qu'il a répété encore une fois tard hier soir sur Twitter à l'effet de quoi il n'y a pas de sécurité frontalière sans mur, on n'en sortira pas. C'est aussi simple que ça, Marie-Claude.
En fait, là, je pense que la solution est très simple. Elle va être difficile à trouver, mais remarque, M. Trump est capable de la trouver. C'est comment sortir de ça pour lui sans perdre la face.
Exactement.
Parce qu'il y a sûrement une façon. Il est capable.
Il y en a une façon. C'est la même que, personnellement, je te répète depuis maintenant deux semaines. Je le disais même à Paul avant qu'il parte en vacances pour le temps des fêtes. La solution, c'est d'accorder plus d'argent pour la sécurité frontalière. À la limite, construire une structure qui ne serait pas, entre guillemets, un mur, mais qui permettrait au président de, effectivement, sauver la face tout en permettant aux démocrates de ne pas enrager leur base qui penserait qu'ils ont financé le mur qui, évidemment, est détesté par l'électorat démocrate. La solution, c'est la même depuis le début, mais il n'y a aucun des deux côtés qui, pour l'instant, semble prêt à fléchir suffisamment pour l'atteindre.
Parce que malgré tout ce que tu décris, c'est une forme de mur aussi. Donc, pour quiconque ne veut pas de mur physique, quel qu'il soit, ça passe pas. Puis là, le problème, c'est que plus le temps passe, bien plus, comme M. Trump accuse les démocrates d'être responsables de tout ça, alors qu'avant que ça commence, il disait même il va y avoir un blocage, puis je suis très content que ça va bloquer comme
fier,
ça.
Je suis fier,
etc. Puis là, après ça, ben, c'est la faute des démocrates. Puis après ça, les démocrates disent non, c'est la faute de Trump. Fait que pour leur base, ça va devenir problématique.
Bien, le problème, c'est que ça dépasse la base. Les sondages sont clairs depuis les derniers jours. Là, c'est une très nette pluralité d'Américains qui blâment le président plutôt que les démocrates du Congrès. Est-ce que ça va changer parce que les démocrates sont maintenant majoritaires? À la Chambre, il faudra voir, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'indicatif dans cette direction-là.
Bien. Maintenant, parle-nous de cette nouvelle Chambre, diversité au sein du caucus démocrate à toutes sortes de niveaux.
Bien, c'est ça. C'est qu'on va parler beaucoup et on en parle, en fait, depuis l'élection de novembre, parce qu'on sait que les élus qui ont été assermentés aujourd'hui sont ceux qui ont été élus lors des élections de mi-mandat du début novembre 2018. Donc, on a parlé déjà beaucoup lors de l'élection, au lendemain de l'élection, qu'on avait, par exemple, deux musulmanes à la Chambre élus, évidemment, du côté démocrate, qu'on avait une première sénatrice, une première sénatrice bisexuelle qui avait été élue au Sénat en Arizona. On a même une Palestinienne qui est élue également à la Chambre des représentants. Donc, beaucoup de premières à ce niveau-là. Un nombre record de femmes, plus de 140. Évidemment, il y en a qui vont dire que 140 sur plus de 500, c'est pas grand-chose, mais c'est un sommet historique.
C'est un progrès. Un progrès.
Ce qui est intéressant, dont on parle peut-être moins pour l'instant, mais qui va devenir beaucoup plus visible au courant des prochains mois, peut-être des prochaines années, c'est que c'est pas simplement de la diversité à ce niveau-là qu'on va voir, c'est la diversité également idéologique. C'est-à-dire que lorsqu'ils étaient minoritaires, parce qu'ils détenaient moins de sièges, les démocrates représentaient des circonscriptions qui étaient beaucoup plus homogènes. C'est un caucus qui était beaucoup plus homogène. Là, puisqu'ils sont majoritaires, par le fait même, sont allés gagner en terrain plus marginal pour eux. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont un éventail de représentants maintenant qui représentent différents intérêts. Et donc, tu vas avoir des démocrates beaucoup plus à gauche, d'autres un peu moins. Et sur des questions, par exemple, comme l'environnement, où tu as l'aile la plus à gauche du caucus démocrate à la Chambre qui va vouloir, dès les premières semaines de ce nouveau congrès-là, là, pousser très agressivement sur la question des changements climatiques. Probablement investir, dépenser des milliers de milliards là, sur plusieurs années, là, on parle de trillion en anglais, dans des programmes de protection de l'environnement, de développement d'énergie renouvelable, il va y avoir très certainement des tensions avec l'aile plus modérée. Là.
Oui, puis tensions face aussi au pouvoir, puisque M. Trump, on le sait, lui, ne croit pas au changement climatique, ne croit pas aux problèmes environnementaux.
Tensions avec la Maison-Blanche et également, quand tu parles de Donald Trump, tensions au sein de ce nouveau caucus démocrate-là par rapport à qu'est-ce qu'on fait face à Donald Trump? Est-ce qu'on va de l'avant avec le processus de destitution? Oui ou non? Tu vas voir l'aile, encore une fois, la plus militante du Parti démocrate qui va vouloir se servir de ce pouvoir-là à la Chambre pour aller de l'avant avec l'impeachment.
Mme Pelosi a été très posée sur ce sujet.
Elle connaît ça. Pourquoi? Parce que Mme Pelosi est présidente pour la deuxième fois de la Chambre des représentants. Elle était présidente de 2007 à 2011. Et qu'est-ce qu'il y avait en 2007 et 2008 au tout début de son mandat comme présidente de la Chambre des représentants? Beaucoup de pression de la part de la base démocrate pour destituer le président de l'époque, George W. Bush. Et Mme Pelosi avait été celle qui avait vraiment calmé les ardeurs de l'aile la plus militante des démocrates en disant « non, c'est aller trop loin ». Et là, en 2019, elle semble jouer dans le même vieux film, c'est-à-dire on a une base qui veut destituer le président républicain en fonction, mais on ne veut pas effrayer une masse critique d'électeurs en étant perçu tout au moins comme étant trop radicaux. Donc,
tu sais,
ça va voir.
Tu parlais des démocrates, bon, qui sont dans des zones différentes, mais toi aussi, tu sais, ceux qui doivent être prudents, ce sont les démocrates qui ont été élus dans des États normalement très, très républicains.
Ben, c'est ça.
Donc, ça aussi, là, c'est délicat pour eux de, sur certaines positions.
Exactement.
C'est très. En fait, l'Amérique est divisée en deux.
L'Amérique est divisée et à chaque fois qu'on a un parti qui est majoritaire au Congrès, on les voit, ces fissures-là, au sein de la majorité. On va les voir immanquablement au sein de cette nouvelle majorité démocrate-là. On rappelle rapidement, Marie-Claude, que oui, on a une majorité maintenant à la Chambre, mais on a une majorité républicaine qui est maintenue au Sénat. Ça, il faut le dire. Là.
Oui, mais sauf que dans certains cas, comme sur le mur, ben, ça prend
60 voix. Donc, les démocrates ont quand même un pouvoir très fort de négociation au Sénat, même s'ils sont minoritaires.
Énorme. Et ça, c'est la nouvelle donne de 2019 et c'est pas vilain du tout.
Absolument.
En terminant, ben, la campagne présidentielle est déjà commencée.
C'est clair. Écoute, on se parlait il y a quelques jours de la première candidate, Elizabeth Warren, qui avait lancé sa candidature la veille du jour de l'an. Là, on en a un deuxième potentiellement, Julian Castro, ex-membre de la Chambre des représentants lui-même et ex-secrétaire au logement sous l'administration Obama, qui pourrait, dès samedi prochain, le 12 janvier, annoncer sa candidature. Donc, écoute, on est en janvier 2019 et on aurait déjà un début de course formelle pour l'élection de novembre 2020.
C'est prendre de bonheur. Merci beaucoup. Merci, Raphaël. On s'arrête le temps des nouvelles. À tout de suite.